Cet épisode est rendu possible grâce à Livy. La semaine dernière, j'avais une angine et j'errais chez moi en pyjama comme un zombie trempé de sueur. Comme mon médecin habituel ne prenait pas de rendez-vous le jour même, j'ai utilisé l'application Livy qui permet d'accéder en vidéo depuis un smartphone ou une tablette à un ou une médecin inscrit à l'ordre des médecins français. On peut indiquer son numéro de carte vitale et si besoin, envoyer sur l'appli une photo avec ses symptômes. Donc j'ai branché ma caméra et voilà. Au besoin, vous pouvez même recevoir une ordonnance. Donc si comme moi, vous êtes coincé au lit ou que vous n'avez pas le temps de vous déplacer pour voir un praticien, c'est très rapide et les médecins sont dispo 7 jours sur 7. Donc je recommande, et en particulier pour les renouvellements d'ordonnances, d'ailleurs celles qui utilisent la contraception savent. Merci Livy de soutenir cet épisode de Quoi de Meuf. Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Captain Archie.
C'est parti ! C'est la montée des eaux, l'asphyxie, l'indigestion, l'apoplexie, la disette, l'insomnie, l'effroi, bref, la fin du monde. Alors les femmes peuvent-elles sauver la planète ? Est-ce une responsabilité de trop ? On ne parle pas de super-héroïne cette semaine, mais d'écoféminisme et de charges écologiques. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de Meuf, on est avec Kaoutar Archie, salut !
Salut !
Ça va, Quoi de Meuf ?
Ça va. Et toi ?
Écoute, moi j'écris un livre, je suis sur la fin.
Courage. Merci,
donc j'en parlerai quand ce sera terminé. Et d'ailleurs, je crois que je ne suis pas la seule, puisque toi aussi tu es en train d'écrire un livre. Est-ce que tu veux en parler ?
Je suis superstitieuse.
D'accord.
Sur donc, ces choses-là.
Donc on n'en parle pas. Et alors, quoi de neuf dans l'actualité féministe ?
Ce qu'on peut peut-être retenir par rapport à l'actualité féministe, c'est que nous sommes près de 2 ans après MeToo. On a évidemment beaucoup de difficultés comme ça, à chaud, pour dire quelles sont les conséquences, quels sont les effets de ce mouvement. On peut peut-être, sans prendre trop de risques, considérer qu'un certain nombre de victoires ont malgré tout été obtenues. On peut parler de victoires symboliques, la création d'un espace de parole, et puis surtout la formation dans le débat public d'une question sensible, d'une question fondamentale sur laquelle des acteurs politiques se sont empressés de se positionner, mais aussi des victoires évidemment militantes. Et parmi ces victoires militantes, celle que je retiens peut-être le plus fortement, c'est celle qui a trait au terme de féminicide, c'est-à-dire le phénomène de déromantisation du meurtre des femmes en tant que femmes. Il me semble que cette sortie-là, elle est très importante, à la fois évidemment sur le point de vue du langage, des termes utilisés, et sur la possibilité de révéler, de faire reconnaître une réalité politique des plus centrales dans le combat féministe.
Tout à fait. D'ailleurs, on y reviendra dans un épisode ultérieur. Alors, bon anniversaire, MeToo.
Bon anniversaire.
Quant à nous, on va entrer dans le vif du sujet. Do you speak collapsologie, Kaoutar ? Alors, on va faire un petit point historique.
Tout à fait.
Sur l'écoféminisme, c'est quoi ? D'où ça vient et de quoi on parle ? Alors, d'abord, c'est en France que l'intellectuelle Françoise Daubonne, qui est une des pionnières du mouvement féministe des années 70, mais aussi de la décroissance, a été vraiment la première, en tout cas, a inauguré le terme, donc ce néologisme à l'époque en 1974 et 4 ans plus tard en 1978, elle va fonder le mouvement de réflexion écologie-féminisme. Mais en fait c'est surtout aux États-Unis et un peu plus tard dans les années 80 que l'écoféminisme va vraiment prendre son essor. C'est un moment donc où on sort des mouvements contre la guerre du Vietnam et on va entrer précipitamment dans la guerre froide avec la peur du nucléaire. Et à ce moment-là vont s'agréger tout un tas d'actions collectives. Et celle qu'on peut retenir, c'est la Women's Pentagon Action, c'est la plus connue, dans laquelle des femmes se sont enchaînées aux grilles du Pentagone pour protester. Alors à ce moment-là, il n'y a pas réellement de mouvement politique ou de groupe très structuré. D'ailleurs, c'est vraiment une des caractéristiques de ce mouvement, d'être assez protéiforme. Et donc c'est un courant qui va essayer de repenser l'anthropocène, donc c'est la période actuelle, celle qui suit la révolution industrielle, mais aussi de repenser le progrès et d'avoir également évidemment un rapport critique à la violence d'État. Et par rapport à d'autres formes de militantisme, ce qu'on peut dire, c'est que l'écoféminisme a un rapport assez positif et assez constructif aux luttes, puisque le but, c'est de fabriquer collectivement de l'espoir, et notamment à travers des manifestations festives. On se souvient de la citation de l'anarchiste Emma Goldman, « If I can't dance in your revolution, I'm not coming », donc « Si je ne peux pas danser dans ta révolution, je ne viens pas ». Donc le but, voilà, c'est de réinventer des récits, de créer de nouveaux lieux et des utopies collectives, notamment au sud, dans les pays du sud. Donc pour nous, on espère de se décentrer.
Effectivement, est-ce que tu dis sur la dimension positive, sur cet aspect créatif, même si évidemment c'est encore plus complexe que ça, et d'autant plus important que ce sont des luttes difficiles, ce sont des luttes qui exigent un investissement extrêmement fort, et il me semble que l'un des apports très importants de l'écoféminisme, on en reparlera ne serait-ce que sur le plan de la méthode, c'est aussi effectivement de penser à la production, à la constitution de ce qu'on pourrait appeler des émotions, des affects fédérateurs. Et dans une période où la dépression militante guette chacun et chacune d'entre nous, c'est un aspect qui effectivement me semble extrêmement important, et c'est aussi évidemment un aspect, une dimension propre à ce qu'on pourrait appeler l'imagination politique, l'imagination stratégique. Ce qu'on peut aussi dire par rapport à cet aspect-là, et le terme de reclaim sur lequel on reviendra par la suite, qui pourrait signifier le fait de défricher, le fait de rebâtir, le fait de vouloir insuffler une sorte de souffle producteur, est très important dans le mouvement des écoféminismes, à la fois dans sa dimension historique, mais aussi par rapport à ses manifestations actuelles.
Et alors, par exemple, pour donner des exemples d'actions, on en répertorie un certain nombre en Amérique du Sud, mais on peut aussi citer un mouvement historique qui est le Green Belt Movement, qui a eu lieu au Kenya dans les années 70, qui consistait pour des femmes à planter des arbres contre la déforestation.
Oui, effectivement, tu parles de la question ici de la déforestation. C'est un aspect très important de ces questions-là. On peut penser aussi aux luttes qui ont été menées et qui sont toujours en cours actuellement en Inde, par exemple, par rapport à la question de la toxicité des terres, la toxicité des sources d'eau, mais aussi des bétails. On voit bien ici comment très rapidement le risque encouru par les femmes qui s'engage dans l'écoféminisme, c'est à la fois de protéger les ressources qui sont les leurs, les ressources grâce auxquelles elles se nourrissent, elles nourrissent leurs enfants, elles nourrissent leur famille, mais aussi les ressources grâce auxquelles elles tirent un bénéfice de leur travail. On peut penser à la question de la pêche, on peut penser à la question de la nécessité de vendre le produit de la pêche sur les marchés au centre-ville, et le désastre qui est provoqué dès lors que ces produits ne sont plus des produits vendables. Donc on voit bien ici qu'il y a une sorte de cercle vicieux qui s'engage et qui est vraiment au cœur de cette tension entre conditions féminines et problématiques environnementales.
On va essayer de débroussailler tout ça justement. Et alors, pour faire un petit point pratico-théorique, concrètement, c'est quoi les enjeux de l'écoféminisme ?
Alors, je n'essaierai pas de définir précisément ce qu'est l'écoféminisme. D'ailleurs, il me semble qu'on devrait parler de cette question-là plutôt au pluriel, mais à tout le moins, effectivement, on pourrait considérer qu'il existe une diversité d'écoféminisme, c'est-à-dire une sorte de pluralité d'approches, de pratiques, qui sont elles-mêmes sous-tendues par des enjeux théoriques extrêmement complexes, qui se reconfigurent selon l'espace, le temps, et bien évidemment qui se reconfigurent aussi selon l'espace, le temps et le type de rapport de pouvoir qui sont en présence. Néanmoins, un repère fondamental pourrait être préciser, c'est que finalement, parler d'écoféminisme, c'est essayer de travailler, allier, avec des réussites et puis parfois aussi avec des formes de tension, deux paradigmes centraux. D'une part, ce qu'on pourrait appeler une forme d'environnementalisme, c'est-à-dire la question, le souci du rapport de l'homme, et bien évidemment, c'est toute la question de la femme et la nature. Et d'autre part, le paradigme bien connu de nous ici, qui est celui du féminisme.
Oui.
Effectivement, l'un des nœuds de l'écoféminisme, et qui va historiquement appeler des réponses distinctes, réside en cette double tension. Finalement, quelle direction est-ce que l'on décide de prendre ? Est-ce qu'il est question d'introduire une dimension sociale l'inégalité homme-femme, par exemple, dans l'éthique environnementale, ou est-ce qu'il s'agit d'introduire une dimension écologique susceptible d'être assimilée à l'idée de nature dans les pensées féministes? Et bien sûr, de quel féminisme est-ce que nous parlons ici? En d'autres termes, et en disant ça, je m'inspire en partie du travail qui a été effectué par Catherine Larère, est-ce que l'on cherche à écologiser le féminisme? Est-ce que l'on cherche à féminiser l'écologie? Et d'un point de vue stratégique, où est-ce que se situerait ce qu'on pourrait appeler le vivier subversif, politique, révolutionnaire, le plus riche? Et cela, bien sûr, rapporté aux intérêts des premières concernées. Pourquoi l'écoféminisme arrive-t-il si tardivement en France? Ou en tout cas, qu'est-ce qui nous donne le sentiment qu'il n'est pas aussi présent dans les luttes qu'il ne l'est dans d'autres pays?
Effectivement, je pense que c'est pas un hasard. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode. Puisqu'en France, donc à partir du moment où le terme a été élaboré, les courants marxistes ont pris le dessus. À cela s'ajoute le fait que donc Simone de Beauvoir a grandement contribué à une certaine méfiance autour du terme de nature. Donc tout ça peut expliquer le peu d'intérêt pour les mouvements écoféministes en France. Mais en tout cas, actuellement, on peut saluer les travaux de la chercheuse Émilie H avec les éditions Cambourakis qui ont fait un gros travail pour amener tous ces textes-là en France et les faire traduire en français, notamment les écrits de l'historienne Caroline Merchant ou de la poétesse Suzanne Griffin. Et Émilie H dit elle-même qu'il y a un vrai mépris en France parce que précisément ce ne sont pas des textes académiques, qu'ils sont souvent vus comme une sous-forme de pensée. Et ça, c'est vraiment une manière de méconnaître ou de mal comprendre les textes écoféministes, puisque justement, ceux-ci s'inscrivent contre les récits dominants. C'est donc, tu l'as dit, le sens du terme reclaim, donc de réappropriation. On peut aussi citer cette année plusieurs festivals écoféministes qui ont eu lieu en France, donc le festival Éco-queer à la Mutinerie, le festival Après la pluie en région parisienne, voilà. Donc les initiatives se multiplient quand même peu à peu. Et alors pour incarner un petit peu le propos de cet épisode, qui sont les femmes qui mènent la lutte écoféministe? Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Oui, effectivement, la question des actrices, de leur trajectoire, des modalités de prise de position qui sont les leurs est très important. L'une des figures de proue à laquelle on pense très, très spontanément, puisque sa notoriété est aujourd'hui mondiale, c'est Vandana Shiva, qui a 66 ans, qui est une militante indienne anti-OGM. Elle est d'une formation physicienne et elle a notamment participé au mouvement SHIPCO et aidé à l'interdiction des mines de calcaire dans la vallée de Doune. Donc pour essayer de comprendre un peu mieux qui est Vandana Shiva et surtout ce qu'elle a fait avec d'autres femmes, mais tout en étant une sorte de leader charismatique très, très marqué, on peut peut-être s'intéresser à ce passage où elle décrit la manière dont s'est formée dans son esprit une conscience écoféministe, si on devait le formuler aujourd'hui avec nos propres termes. Vandana Shiva nous dit donc: j'avais 20 ans et avant de partir au Canada pour passer mon doctorat, j'ai voulu nager une dernière fois dans la rivière de mon enfance, dans la vallée de Doune, au pied de l'Himalaya. Là, j'ai découvert que les arbres avaient été coupés et qu'il n'y avait plus qu'un filet d'eau m'arrivant aux chevilles. La forêt auprès de laquelle j'avais grandi, que je croyais éternelle, n'était plus. Cette disparition a été un déclic. Elle m'a fait prendre conscience du mal que l'homme pouvait faire à la nature, jusqu'à anéantir des écosystèmes entiers. Je ne pouvais pas m'y résoudre et j'ai rejoint des femmes du mouvement SHIPCO, dont le mode d'action pour résister à la déforestation consistait, lorsque les tronçonneux se mettaient en route, à enlacer les arbres en disant « si vous voulez les abattre, abattez-nous d'abord ». Et Vandana Shiva de poursuivre: « ma vocation de militante s'est forgée aux côtés de ses sœurs de lutte, c'était des mères et des filles d'origine très modeste, illettrées pour la plupart, mais dotées d'une grande connaissance de ce milieu naturel. Elles savaient aussi comment mobiliser et comment agir. J'ai mis à leur service mes compétences de scientifique et ma capacité à m'exprimer en langue anglaise. Cette complémentarité nous a permis de réaliser un travail de terrain qui a débouché en 1981 sur un moratoire de 15 ans sur l'abattage des arbres dans l'état de l'Uttar Pradesh. Ça a été la première victoire de ma vie d'activiste. » Ce passage, il me semble être important puisqu'il condense en quelques expressions fortes la trajectoire de Vandana Shiva et la manière dont quelque chose d'un mouvement féministe qui se forme autour de ce qu'on pourrait appeler ici la sauvegarde d'un environnement. Et surtout, on évoquait avant la féministe française Simone de Beauvoir en disant qu'elle avait très largement participé à faire peser un doute, et il me semble assez légitime, sur la question de la nature, du naturel, etc. Mais on voit bien ici que la problématique naturelle, la question de la nature qui se pose à Vandana Shiva et à d'autres femmes, n'est pas celle à laquelle pense immédiatement, quasi instinctivement, Simone de Beauvoir. Pour Simone de Beauvoir, il est bien question d'un enjeu de réduction biologique de la femme, la réduction biologique de la femme à son propre corps, par exemple, à son utérus, à ses fonctions d'auto-reproductrice. Dans l'esprit de ces femmes indiennes, la nature, c'est autre chose. La nature, c'est leur environnement de vie, c'est l'espace dans lequel elles ont grandi, c'est l'espace qui leur permet de survivre. On évoquait avant la pêche, on évoquait avant différentes formes de production nourricière. Et on voit bien ici la manière dont très rapidement, il y a quelque chose qui va effectivement se jouer entre sauvegarde de la nature, ce qui signifie sauvegarde des possibilités, des conditions de la vie des femmes, et donc question centrale du lien entre le système patriarcal et le système capitaliste.
Oui, alors on va y revenir juste après, mais c'est vrai qu'actuellement, ça n'aura échappé à personne, le mouvement écolo et écoféministe, puisqu'ils se confondent en partie, est un mouvement très jeune, hein, avec beaucoup d'adolescentes qu'on appelle souvent éco-warriors en anglais. Mmh. Et d'ailleurs, on est un petit peu obligé de parler du cas épineux Greta Thunberg, donc suédoise à Nantes de 16 ans, qui a pris la tête des grèves du vendredi Fridays for Future et qui subit un certain nombre de discriminations sexistes, puisqu'elle courrouce les haters de tout poil. D'ailleurs, Daniel Cohen-Bendit a dit à son propos « Greta Thunberg ne pollue pas, mais elle nous pompe l'air ». Et Bernard Pivot donc a commis ce tweet odieux, je le cite. « Dans ma génération, les garçons recherchaient les petites Suédoises qui avaient la réputation d'être moins coincées que les petites Françaises. J'imagine notre étonnement et notre trouille si nous avions approché une Greta Thunberg ».
On a vraiment du mal à croire en ce tweet. Vraiment, il est terrible à tout point de vue.
Ouais, débranchez Bernard Pivot, si ce n'est pas lui qui l'a écrit. Ouais,
exactement.
Bon, en tout cas, on peut être certain que Greta Thunberg n'est peut-être pas là pour exciter les hommes français.
Elle s'est peut-être donné une vocation effectivement plus importante
voilà,
que celle
ça.
De rappeler à certains... Leur jeunesse.
Il y a aussi le président des Amis du Palais de Tokyo qui a appelé à abattre donc la jeune écolo. Et je vous recommande cet article de Télérama au titre très amusant « Haro sur Greta Thunberg, la démoniaque vestale hitléro-maoïste ». Voilà.
Rien que ça.
Donc apparemment, celle-ci mettrait mal à l'aise, surtout des hommes blancs quadragénaires, on suppose. Est-ce vraiment un problème? Je ne sais pas. En tout cas, personnellement, voir une adolescente de 16 ans envoyer chier des dirigeants, pour moi, c'est l'un des cirques médiatiques les plus étranges et les plus fascinants du moment, je trouve.
My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of climate justice now.
Oui, et puis moi, ce que je trouve très très intéressant avec Greta Thunberg, c'est aussi d'observer effectivement, comme tu le disais, des phénomènes de disqualification sociale et politique dont elle fait l'objet. On voit bien que ce qui est visé, ce n'est pas son discours, mais ce qu'elle est, ce qu'elle est physiquement, ce qu'elle est dans l'imaginaire sexualisé de certains. Et ce qui est peut-être d'autant plus riche, d'autant plus interrogeant, c'est la manière dont Greta Thunberg va elle-même se positionner, la rhétorique qu'elle va développer. Et il me semble que l'une des forces de cette rhétorique, même si pour l'instant on peut considérer qu'on en est encore au début de sa trajectoire et de son militantisme, c'est aussi de considérer qu'elle pose une autre question qui parfois est peut-être un peu voilée, un peu masquée par la question uniquement féministe. C'est la question de l'enfance, c'est la question de ce qu'on appelle parfois en sociologie ou en sciences politiques la domination adulte, c'est-à-dire cette manière qu'a aussi Greta Thunberg, de considérer que ce qui est aussi à remettre en cause dans le domaine très vaste de la défense pour l'écologie, c'est le rapport du pouvoir entre les mineurs et les majeurs, et la revendication de l'égalité politique, c'est-à-dire de participer à égalité à la définition du monde, quand bien même elle aurait 16 ans, et quand bien même ceux auxquels elle s'adresse, et elle s'adresse fortement, en aurait 50, 60, 70, etc. Donc il me semble que là, aussi, par rapport à la question des enfants, par rapport à la question de l'adolescence, on pourrait dire, ou en tout cas de cette minorité civique, citoyenne, quelque chose de très riche se pose.
Et alors justement, il y a une autre figure adolescente qui donne de la voix ces jours-ci.
Oui, tout à fait, une autre figure adolescente, comme tu dis, du nom de Autumne Pelletier, qui connaît Greta Thunberg, puisqu'elle fréquente régulièrement les mêmes couloirs de l'ONU. C'est une jeune fille qui est originaire du Canada. Elle milite plus précisément en Ontario pour la question de la non-toxicité de l'eau.
I'm doing this work as we can't just pray anymore. We must do something and we need to do it now. I need to get right into this message so you feel where I'm coming from. I can't stress enough what I have learned about the water from my elders in our ceremonies.
La question évidemment de la durabilité, on pourrait dire, de l'eau potable. Et c'est une question qui est fondamentale pour les populations autochtones au Canada qui sont très fortement touchées par cette question-là. On a aperçu Autumne Pelletier, comme je le disais, lors de plusieurs interventions à l'ONU, mais on l'a aussi entendu se confronter de manière très très vive, très vigoureuse avec Justin Trudeau en lui demandant de rendre des comptes sur la politique écologique qu'il dit clamer, qu'il dit mener tambour battant. Mais Autumne Pelletier a décidé que les effets étaient insuffisants. Et on voit là effectivement dans la lignée de Greta Thunberg quelque chose qui se forme et qui est d'autant plus riche qu'il constitue en effet une sorte de nébuleuse riche et dynamique. Alors si on essaie de décortiquer et de comprendre les formes d'articulation entre féminisme et écologie, comment présenterais-tu les choses ?
Alors, c'est difficile, tu l'as dit déjà avant, ouais. Mais c'est vrai que l'écoféminisme essaie de penser ensemble souvent la nature et la féminité, et d'ailleurs ça a prêté le flanc à pas mal de critiques, puisqu'on dit parfois que l'écoféminisme peut être essentialisant, puisqu'on en parle souvent en lien avec la biologie, à propos des règles ou de la maternité par exemple. Donc selon certaines écoféministes, le lien entre la nature et les femmes en fait va de soi, puisque c'est un lien qui aurait été construit et pensé comme tel, et donc ces deux éléments auraient été en fait dénigrés ensemble. Donc la sorcière californienne Starhawk, dont on a déjà parlé dans des épisodes précédents, mais aussi l'historienne Silvia Federici, disent toutes les deux que l'oppression de la terre et des femmes a un lien direct avec le capitalisme, et donc est le produit d'un rapport de domination hiérarchique, c'est-à-dire qu'on aurait exploité la terre au nom de sa féminité et que donc de cette manière on aurait aussi relégué les femmes au second rang en même temps. Donc, en réponse à cette situation, il faudrait aujourd'hui repenser le féminin, puisque celui-ci donc n'aurait été pensé que dans une forme de hantise. Donc ça, ce serait la vision masculine. La vision patriarcale qui domine aujourd'hui. Mais attention, ça se complique, puisque selon elle, le féminisme obéirait aussi à cette vision patriarcale et donc rejetterait aussi la notion de nature. D'ailleurs, il y a cette citation très drôle donc dans le livre Reclaim, dont on parlait précédemment, qui dit « Qui veut une part égale d'une tarte cancérigène ?» Traduction, il faudrait en fait inventer notre propre manière d'être au monde et notre propre système de pensée. Voilà. Mais alors, donc, le débat, on le voit, se corse. Est-ce que les femmes, en fait, se font un peu arnaquer dans l'écologie ou dans l'écoféminisme? Qu'est-ce que t'en penses?
Alors, je pense que c'est une question qui est effectivement très complexe et qui mérite à chaque fois de repréciser. Et c'est là où la complexité, il me semble, se produit de manière extrêmement forte. De quelle femme parle-t-on? De quelle expérience féminine souhaite-t-on éclairer les fondements. Et on voit bien ici que la position, on l'évoquait auparavant, d'une Simone de Beauvoir ou d'une Vandana Shiva, sont extrêmement différentes. Un élément peut-être qui permettrait d'éclairer ces questionnements-là, c'est d'essayer de comprendre la manière dont le système patriarcal fait usage de la catégorie féminin ou de la catégorie féminité. Et il est évident que la domination, l'exploitation des terres, elle a été justifiée en considérant qu'il y avait une part féminine de cette nature-là. Donc il me semble que là, on a une sorte de consensus qui apparaît, et c'est peut-être davantage dans les stratégies d'opposition, dans les modalités de résistance, que le fait d'être une femme du Nord, pour aller très rapidement, ou une femme du Sud global, fait intervenir des formes de dissensus, mais qui sont véritablement des dissensus politiques, c'est-à-dire qui tiennent compte de la pluralité, on pourrait dire, des subjectivités féminines.
Et alors justement, pour continuer sur ce terrain épineux, dans Slate, Nora Boazouni a écrit un article parlant de charge écologique, en s'interrogeant, le féminisme est-il soluble dans l'écologie ? Donc est-ce que la charge écologique retombe nécessairement sur les femmes ? Les femmes sont-elles plus impactées ? Donc la réponse serait oui, car elles sont plus sujettes à la précarité et aussi plus sujettes au réchauffement climatique, en tout cas dans les pays donc dits du Sud. Est-ce qu'elles sont plus intéressées par le sujet ? Il semblerait également que oui, en tout cas politiquement, puisqu'elles votent davantage pour les partis verts que les hommes. Est-ce qu'elles seraient aussi plus responsables ? Pourquoi est-ce que ce care serait nécessairement une compétences féminines, voilà. Pourquoi est-ce que ce serait toujours aux femmes de tout faire ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Il me semble effectivement que l'expression de charge écologique, elle désigne, elle met en avant quelque chose d'un phénomène extrêmement juste et qui révèle un rapport de pouvoir auquel les femmes sont soumises. Peut-être qu'on pourrait rappeler que dans le cadre qui est le nôtre, le cadre européen, la charge écologique, elle va gagner en intensité, elle va être d'autant plus forte que l'on favorisera une approche individualisée de la lutte contre le réchauffement climatique, en considérant que c'est par la multiplication de ce qu'on appelle maintenant les petits gestes que la chose se réglera. Or, de manière très objective, de nombreuses études ont été menées et prouvent bien qu'au regard de la gravité de la situation, nos seuls petits gestes ne suffiront pas à changer la situation. Et c'est bien au niveau structurel que les changements doivent être opérés.
C'est un peu comme pour le féminisme.
Comme pour le féminisme, exactement. Et cette charge écologique, on pourrait dire, ou en tout cas c'est comme ça que je la perçois, comme une sorte de stratégie extrêmement pernicieuse et vicieuse produite par le système patriarcal qui vise au maintien d'une certaine situation inégalitaire dans le travail de division de la lutte contre le climat. Il y aurait les petits gestes féminins qui sont produits, qui sont réalisés dans l'espace domestique et invisible, et il y aurait les grandes actions masculines produites dans l'espace extérieur, généralement portées par des hommes d'État. Et on voit bien ici qu'à nouveau, c'est la question de la représentation de la grandeur qui est à nouveau en jeu dans ce débat-là. La charge écologique, c'est donc un phénomène qui est typiquement genré, c'est-à-dire qui obéit à la construction d'une perception selon laquelle la féminité d'une femme va s'exprimer et sera davantage désirable au fur et à mesure qu'elle portera une attention à son environnement. On revient ici typiquement aux problématiques du care et à la question des phénomènes qui y sont liés. La question de l'attention portée aux enfants, la question de la beauté, la question de la préservation de l'espace et une sorte de foisonnement émotionnel constant. Donc on pourrait dire que par rapport à cette question-là, on est typiquement, encore une fois, dans une rencontre entre système patriarcal et système d'exploitation capitaliste. Néanmoins, comme tu le disais, quelque chose se réalise à partir de ce système-là, c'est la production d'une condition féminine environnementale qui est des plus difficiles. Et à cet égard, la question de la lutte contre le réchauffement climatique ne peut aller sans une prise en compte du fait que les femmes en sont les premières victimes. On évoquait auparavant le cas de l'Inde. On imagine bien que pour des femmes indiennes qui n'ont pas accès à l'espace urbains, qui donc sont amenés à travailler spécifiquement dans les régions paysannes ou ruralisées, la destruction de l'environnement, c'est la destruction de leurs sources de rémunération. Donc la question est, à mon avis, à poser à chaque fois, avec cet effort intellectuel de reposer, de repréciser l'espace à partir duquel on s'exprime.
Alors, du côté de notre expérience personnelle, est-ce qu'il faut hiérarchiser les luttes ou au contraire les mutualiser? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté?
Alors, d'un point de vue personnel, je pourrais dire qu'effectivement, mon rapport et mon souci de la question écologique est assez, il est assez tardif. Ce retard, je pourrais principalement l'expliquer ou en tout cas le comprendre en mobilisant l'espace ou en tout cas le milieu populaire au sein duquel j'ai grandi. Espace populaire au sein duquel cette problématique était perçue. En tout cas, c'est comme ça qu'on m'a appris à la percevoir, comme étant non prioritaire. Alors, en disant cela, je voudrais vraiment être très précise et dire que cette non-priorité, elle n'a pas tant été le fait de ma mère ou d'un entourage féminin proche ou même d'un entourage masculin proche, mais je l'aperçois davantage comme un fait institutionnel. C'est-à-dire que j'ai vraiment ce souvenir très, très précis de ma chambre dans l'appartement parentale qui donnait sur la zone pavillonnaire et à heure régulière, je voyais bien que les habitants de cette zone pavillonnaire sortaient et rentraient les poubelles et à un moment donné s'est posé pour les habitants des HLM, comme on les appelait, la question du tri. Et je me souviens, c'est quelque chose qui m'a marqué dans mon adolescence, c'est-à-dire ce moment où un groupe de femmes a décidé de s'adresser par voie officielle à la municipalité. J'ai dû rédiger un papier allant dans ce sens-là pour pouvoir obtenir un système de tri comme les habitants de la zone pavillonnaire en disposaient, entre guillemets, naturellement. Alors, ça peut paraître anecdotique, c'est quelque chose qui en soi m'a marqué, mais qui n'est pas non plus complètement significatif de cette problématique, mais quand même, il me semble qu'il y a ici quelque chose qui se forme, qui peut se préoccuper de la fin du monde et qui est avant tout préoccupé par la fin du mois. C'est un slogan qui a été très largement valorisé, mais il me semble être très très prégnant et surtout politiquement juste. Et à cet égard, par exemple, le travail qui est mené par Fatima Wasak à travers le mouvement du Front des Mères est assez significatif de cette tentative de penser la question écologique à travers notamment la question de la nourriture servie aux enfants dans les systèmes de cantine. Et c'est quelque chose qui est très fort. Donc voilà, donc j'ai un rapport complexe à cette question écologique. Et c'est vrai qu'il est peut-être pour moi plus facile d'y penser de manière abstraite que de l'intégrer dans mes gestes quotidiens. Et toi, comment est-ce que cette question existe ou pas dans ta vie quotidienne?
Alors moi, concrètement, j'utilise l'application 90 jours, donc qui donne des astuces, comme mettre une bouteille dans sa chasse d'eau, etc. Okay. J'ai une brosse à dents en bambou, je fais parfois ma propre lessive, j'ai un compost dans mon très petit jardin. Okay. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de me méfier de la vision tout à fait dépolitisée dans laquelle, justement, les gouvernements se dédouanent, on en a parlé, et où ce serait à chacun de faire des petits gestes du quotidien dans son coin. Donc, effectivement, je pense que tout ça, ça s'invente collectivement. Et d'ailleurs, je regrette dans les manifestations pour le climat qui ont eu lieu récemment. Je n'ai pas trouvé de cortège écoféministe à rejoindre. Peut-être qu'il y en avait, je ne sais pas. Par contre, j'ai noté certains panneaux bien sentis. Par exemple, les slogans « Forêt, pubis, arrêtez de tout raser ».
C'est drôle et c'est juste en plus. Ouais.
Ouais. Mais aussi, chatte, forêt, protéger les zones humides. Donc ouais. Voilà, je vous invite à réutiliser ces panneaux.
La métaphore nature, corps humain va faire hurler certaines.
Ouais.
Mais politiquement, effectivement, c'est très bien trouvé.
Donc voilà, mais c'est vrai que de manière générale, l'écoféminisme, en tout cas, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose qui nous venait peut-être d'une autre génération, peut-être des hippies, donc parler de la déesse, du féminin sacré, ça m'a jamais trop parlé. Mm-hmm. Donc je m'y retrouvais pas jusqu'à assez récemment, justement, où de nouveaux mouvements proposent un peu d'autres choses, même si j'ai des amis qui ont des jardins partagés ou qui font de la permaculture, ou qui utilisent la cup, qui voyagent en train et puis en avion, qui se demandent s'il faut faire des enfants ou pas, etc. Enfin voilà, on est tous un peu plongés dans ces questionnements. Ouais. Alors on va écouter le témoignage de Ophélie Damblé, qui est écoféministe et ancienne cofondatrice du magazine Retard, qui a la chaîne YouTube Ophélie ta mère nature et qui vient de publier l'ouvrage Guérilla Green aux éditions Steinkiss. Donc Ophélie a quitté son CDI dans la publicité à Paris pour apprendre le maraîchage bio, mais contrairement à beaucoup de néo-ruraux, elle tient à jardiner en ville et elle nous explique pourquoi.
En parallèle, en fait, ce dernier job, c'était un peu le moment où moi je commençais vraiment à lire beaucoup de choses sur d'abord le végétarisme, et puis après on bifurque sur comment ça se passe au niveau de l'élevage, mais aussi de l'agriculture au sens plus large. Et moi, ce qui m'a vraiment touchée là-dedans, c'était l'aspect environnemental et le fait que nos terres sont maltraitées, quoi, appauvries de plus en plus, voire stériles parfois. Et ça m'a vraiment inquiétée, bon, déjà de voir que le statut du paysan, de l'agriculteur, était encore assez lamentable. Et puis que moi, là-dedans, en fait, je ne savais rien faire, quoi. Et que je ne savais pas répondre à un des besoins les plus primaires, c'est-à-dire la nourriture, quoi. Je savais pas comment on fait pousser des légumes.
Elle nous a aussi raconté l'influence qu'a eu la pensée écoféministe sur ses pratiques.
L'écoféminisme, ça m'a vraiment énormément portée dans tout le reste, en fait, de mes formations, puis de mon chemin ensuite, et mon retour à Paris dans l'agriculture urbaine. Il y avait aussi ce truc de... pour moi, cultiver, et d'autant plus en ville, c'est aussi se réancrer dans l'espace public en tant que femme. Puisque la ville n'a pas spécialement été conçue par les femmes et pour les femmes, et même toute forme de minorité, comme les personnes à mobilité réduite, les SDF, les migrants, toutes ces choses. Et en fait, d'un point de vue un petit peu métaphorique, cultiver la terre, c'est se réancrer dans cet espace et se dire j'existe, quoi. Donc ça, c'est un peu mon point de vue écoféministe dans la ville. Et j'en parle du coup dans ce livre aussi de la guérilla green. Alors, j'ai pas spécialement évoqué l'écoféminisme, mais pour moi, la guérilla green, elle est forcément liée, quoi. Parce que on sort un peu aussi du cliché bobo de dire le jardinage, c'est un truc pour les intellos et les riches qui ont un jardin. En fait, non, cultiver, ça peut être vraiment aussi une forme de désobéissance, de positionnement politique, d'autonomie. Et plus c'est fait dans les milieux, on va dire, hostiles et défavorisés, plus ça a du sens aussi, plus c'est porteur d'espoir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'anonymes et plein d'associations aussi qui œuvraient pour agir dans des quartiers, sur des friches et faire émerger du vivant, quoi.
Donc on vous recommande de suivre Ophélie qui est en train de fonder une association professionnelle qui s'appelle Les Invasives. Donc allez-y, rejoignez le cortège. Et alors, est-ce qu'on a des conseils pratiques justement ?
Oui, un conseil pratique très simple, c'est par exemple d'aller se renseigner et de connaître peut-être un peu plus le travail qui est mené par le collectif Les Engraineuses. Donc Les Engraineuses est un collectif qui est dédié aux femmes qui ont pour ambition, comme elles disent, de s'épanouir, d'apprendre et de créer afin de mettre en place plus d'équité dans notre société. Et leur principe, c'est effectivement de fondre la question écologique dans une pratique de vie, dans une sorte de pratique de retour sur soi, plus harmonieux et peut-être aussi plus sain si on les croit.
Alors, si vous êtes plus jeune que nous, vous pouvez éventuellement passer par l'école de formation Zero Waste qui s'appelle EDENI. Vous pouvez aussi lire Sœurs en écologie de Pascal Derme, publié en 2017, mais aussi vous référer au classique écoféminisme donc de Maria Mies et Vandana Shiva dont on parlait précédemment, sans oublier l'enquête classique américaine sur la pollution de Rachel Carson, Printemps silencieux, qui a un peu lancer tout ce mouvement à l'époque. Alors, dans la pop culture, finalement, il y a assez peu de figures écoféministes. Pour parler plus généralement des activistes et militants écolos, ils et elles ont longtemps été des figures comiques, parfois un peu ridicules, mais c'est en train de changer puisque Hollywood s'est engouffré dans le créneau de la cli-fi, donc la fiction climatique, avec les films que l'on connaît, Avatar, Le Jour d'après, Wall-E, etc. Je pense qu'on peut plutôt recommander de se référer aux films japonais du studio Ghibli, donc c'est vraiment de l'animation écolo. Par exemple, Nausicaa, donc le film de Miyazaki. Personnellement, j'ai un gros faible pour la série documentaire Planet Earth de la BBC, narrée par... David Attenborough, qu'on ne présente plus. Seven extraordinary continents. I've traveled the
world and the seven. Each one full of life. Et on peut effectivement, toujours dans cette perspective, voir, revoir, redécouvrir Erin Brockovich de Steven Soderbergh avec Julia Roberts, qui revient sur la trajectoire de cette femme, a priori au destin classique, mais qui va se révéler extraordinaire en croisant le militantisme malgré elle et contre la contamination de l'eau par le chrome.
Il y a un autre film qu'on peut redécouvrir parce qu'il est un peu passé inaperçu à sa sortie, c'est Night Moves de Kelly Richard avec Jesse Eisenberg et Dakota Fanning. Alors, c'est plutôt un film sur l'éco-terrorisme et donc ça suit des jeunes activistes écolos qui vivent en communauté et qui vont tenter d'organiser un attentat. Voilà, c'est un film envoûtant et crépusculaire que je vous recommande.
Ouais, qui est vraiment très intéressant par rapport aussi à la question de la radicalité. Qu'est-ce qu'on appelle radicalité? Qu'est-ce qu'on appelle la radicalisation dans une perspective ici, effectivement, liée à l'environnement? On peut voir aussi en ce moment sur Canal+, la série Years and Years, qui est une série d'anticipation qui se passe quelques années en avant. Et on observe la manière dont les changements climatiques, marqués notamment par la question migratoire, qui est aussi une dimension très importante dans la problématique écoféministe, va affecter une famille anglaise. Donc c'est à voir. Look at the state we are in. God knows we need to shake things up. So I propose
that in order to vote, every British citizen must take an IQ test. Et dans cette série, il y a donc la comédienne Emma Thompson qui joue une figure politique qui est une sorte de Marine Le Pen décomplexée qui va prendre le pouvoir, donc une figure charismatique. Voilà. Et alors, pour les personnes qui se rendent en manif, il y a toujours le classique « Hot in Here » de Nelly, qu'on n'hésite pas à brailler en toutes circonstances.
Alors, qu'est-ce que tu nous recommanderais d'un point de vue culturel ?
Alors, cette semaine, moi, j'ai lu une BD. C'est « Les crocodiles sont toujours là » aux éditions Casterman. Donc, on se rappelle qu'en 2014, il y avait déjà un homme pro-féministe qui parlait du harcèlement de rue. C'était le dessinateur Thomas Mathieu. Et d'ailleurs, son dispositif avait été assez critiqué à l'époque parce qu'il présentait tous les hommes sous forme de crocodiles, donc comme des agresseurs ou des agresseurs potentiels. Pourtant, c'est vrai que quand on est une femme seule, c'est souvent la perception qu'on en a. Enfin, en tout cas, moi, je trouvais que c'était très pédagogique et assez efficace. Et donc, ce nouveau volume qu'il a coécrit avec Juliette Boutan parle toujours de harcèlement de rue, mais aussi d'agression et de violence sexuelle et de violence gynécologique et obstétricale. Et c'est vrai que quand on entend le récit de soignants, de soignantes ou de femmes qui ont accouché, c'est vraiment glaçant. Voilà, je vous le recommande.
Alors, la question d'une auditrice, et c'est Marine qui nous a écrit pour nous demander comment réussir un mariage féministe.
Alors déjà, je me demandais si ça existait encore, les mariages, pardon. C'est du mauvais esprit. En tout cas, pour que ce soit égalitaire, Marine, si tu te maries avec un homme, peut-être que celui-ci peut prendre ton nom de famille. Personnellement, j'aurais tendance à éviter un mariage à l'église, mais ça ne regarde que moi. Sinon, je pense que c'est important de discuter et de se répartir l'organisation et toute la logistique du mariage à deux, et si possible de faire participer la famille, les amis, voilà, les proches. Si tu parles anglais, je recommande fortement une bande dessinée de l'américaine Lucy Nisley qui s'appelle Something New. On peut aussi suivre Lucy Nisley, donc c'est K-N-I-S-L-E-Y sur Instagram. Et donc dans cette BD Something New, elle raconte la préparation de son mariage des mois en avance et toute la charge mentale que ça va faire peser en très grande partie sur les femmes, donc sur elle, notamment en décortiquant le mythe de Bridezilla, donc la mariée qui pète un câble, peut-être à raison d'ailleurs. Et elle parle aussi de toutes les légendes les plus bizarres et les plus réactionnaires liées à l'institution du mariage. Voilà, donc c'est à lire. Et on peut aussi, si on veut revoir le film Mes meilleurs amis, pour se mettre en condition avant un mariage. Voilà, après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est pas obligé que tout soit féministe dans sa vie. On n'est pas obligé de faire un mariage féministe si c'est trop contraignant pour nous. Je pense que ce qui compte, c'est de faire quelque chose qui nous ressemble. Peut-être juste de faire la fête. Voilà, c'est à toi de voir ce qui te convient. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. Vous pourrez retrouver tous les liens dont on parle dans la description de l'épisode. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court dans lequel on parlera de bande dessinée.
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Et si vous avez aimé cette émission ou si vous souhaitez en débattre, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser des petites étoiles, comme on dit, sur Apple Podcast.
Salut Kaoutar.
Salut Clémentine.
Quoi de Meuf est une émission de nouvelles écoutes conçue par Clémentine Gallo
et présentée avec Captain Archie.
Montée et mixée par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son et à la coordination, Achille Tola.